VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 12 octobre 2017. Les États-Unis ont annoncé le retrait de l'UNESCO. Israël a emboîté le pas sur cette décision. Attente des premiers résultats de la présidentielle au Libéria. Kenya, le gouvernement interdit les manifestations et les opposants veulent braver l'interdiction. La justice nigériane ordonne la saisie de propriété de l'ancienne ministre du pétrole d'une valeur de 7 millions de dollars. Fête nationale en Espagne, des milliers de personnes ont défilé à Barcelone en faveur de l'unité. Le Fatah et le Hamas palestinien ont signé un accord de réconciliation. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Le gouvernement kényan a interdit les manifestations dans le centre de Nairobi, Mombasa et Kisumu après l'appel de l'opposition à de nouveaux rassemblements quotidiens avant la présidentielle du 26 octobre. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiagi, a expliqué l'interdiction de manifester par la menace de troubles à l'ordre public. Il a rappelé que le droit à manifester ne doit pas violer les droits des autres. Monsieur Matiagi a également précisé qu'il est de la responsabilité des organisateurs de s'assurer que les manifestations se déroulent dans le calme. Il a annoncé des poursuites contre Norman Magaya, directeur exécutif de la coalition d'opposition NASA. Les opposants ont promis de braver l'interdit. L'opposition a prévu des rassemblements quotidiens à partir de la semaine prochaine pour accentuer la pression sur la controversée commission électorale. Raila Odinga s'est retiré de la présidentielle du 26 octobre, arguant que cette commission n'a pas entrepris sa refonte pour organiser une élection crédible. Depuis, l'opposition a multiplié les ultimatums et le pouvoir a engagé une modification de la loi électorale adoptée par le Parlement. Le texte prévoit que les résultats acheminés manuellement prévalent sur ceux transmis électroniquement, une porte ouverte à la fraude. Selon l'opposition.
La justice nigériane a ordonné la saisie de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole d'une valeur de 7 millions de dollars. Le point avec Solange Niamoulissa.
La décision prise par la haute cour fédérale de Lagos concerne des résidences dans plusieurs villes, dont Lagos, Abuja et Port Harcourt, appartenant à l'ancienne ministre du pétrole, Diezani Alison Madoke. Elle est l'objet de plusieurs enquêtes et saisie de propriétés. La commission des crimes économiques et financiers a révélé que Madame Alison Madoke et son cousin Donald Chidi Amambo avaient acheté plusieurs immeubles grâce à des sociétés écrans. Des documents saisis après des perquisitions prouvent que le cousin était le propriétaire de 18 sociétés et propriétés en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Nigeria. La semaine dernière, Madame Alison Madoke, qui se trouve actuellement à l'étranger, a demandé au gouvernement d'Abuja de rentrer pour pouvoir se défendre devant les juges, ce qui lui a été refusé.
Les premiers résultats de la présidentielle au Libéria se font attendre 48 heures après le vote. La commission électorale appelle à la patience et au calme. Après le scrutin de mardi, marqué par une forte participation, l'incertitude perdure sur la tenue d'un éventuel second tour qui sera organisé si aucun des 20 candidats ne l'emporte dès le premier. La commission électorale a renoncé à donner hier comme prévu de premiers résultats, invoquant des défaillances en matière d'organisation, mais promettait de premiers résultats provisoires lors d'une conférence de presse aujourd'hui. L'Ordre des avocats en Côte d'Ivoire a appelé à une réforme du système judiciaire, évoquant la soif de justice compétente et impartiale de la population. L'état actuel de la justice est peu réjouissant, rongé qu'elle est par les lenteurs de procédure, les défaillances des enquêtes de police et le surpeuplement carcéral, a déploré le bâtonnier de l'Ordre des avocats à Beyaou à l'occasion d'une cérémonie d'installation de nouveaux magistrats. L'état d'urgence en vigueur en Tunisie depuis près de 2 ans à la suite d'une série d'attentats a été prolongé d'un mois, a annoncé la présidence. L'état d'urgence a aussi été utilisé ces derniers mois pour des opérations anticorruption. Il avait déjà été prolongé de 4 mois début juin. La famille d'Ahmed Timol, militant anti-apartheid mort en détention, a obtenu la vérité 46 ans plus tard. La justice sud-africaine a requalifié son suicide en meurtre. Le 27 octobre 1971, Ahmed Timol, enseignant communiste de 29 ans, avait été déclaré mort après s'être jeté, selon la police, du 10e étage du quartier général de la police à Johannesburg. À l'époque, l'enquête avait conclu que le meurtre était exclu et que le seul fait de l'imaginer était ridicule. Ahmed Timol a été poussé du bureau ou du toit du commissariat, a conclu le juge Billy Motle de la haute cour de Pretoria, ajoutant que la police l'avait tué après l'avoir torturé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis se retirent de l'UNESCO, accusant l'organisation d'être anti-israélienne. La directrice de l'institution, Irina Bokova, a immédiatement réagi et quelques heures plus tard, Israël s'est également retiré de l'institution onusienne. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a dit regretter profondément le retrait américain. Pour Irina Bokova, l'universalité est essentielle à la mission de l'UNESCO pour construire la paix et la sécurité internationale face à la haine et à la violence par la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le retrait sera effectif à compter du 31 décembre 2018. Washington précise que cette décision n'a pas été prise à la légère et reflète les inquiétudes des États-Unis concernant l'accumulation des arriérés à l'UNESCO, la nécessité d'une réforme en profondeur de l'organisation et ses partis pris anti-israéliens persistants. Washington avait prévenu début juillet de son intention de réexaminer ses liens avec l'UNESCO après sa décision de déclarer la vieille ville de Hébron en Cisjordanie occupée, zone protégée du patrimoine mondial. Une décision que n'avait pas appréciée Israël, grand allié des États-Unis. Washington avait déjà arrêté de participer au financement de l'UNESCO en 2011 lorsque l'agence avait admis les Palestiniens parmi ses États membres.
Le mouvement islamiste Hamas et son rival palestinien du Fatah ont signé au Caire un accord de réconciliation, se donnant 2 mois pour résoudre les problèmes les plus épineux. Les deux parties ont fixé au 1er décembre l'échéance d'un transfert de pouvoir dans la bande de Gaza, actuellement gouvernée par le Hamas. Une nouvelle réunion est prévue au Caire le 21 novembre. Les forces du régime en Syrie ont pris le contrôle de 4 quartiers de Mayadin, un bastion du groupe État islamique dans l'est du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Soutenue par l'aviation russe, cette avancée a permis de couper les routes vers la frontière avec l'Irak. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a démenti des préparatifs d'une attaque contre des positions kurdes. Mercredi soir, les autorités kurdes avaient fait état de préparatifs des forces irakiennes, disant craindre un assaut contre des régions disputées entre Bagdad et Erbil dans les provinces de Kirkouk et Mossoul. En pleine crise catalane, l'Espagne célèbre ce jeudi sa fête nationale. Des milliers de personnes ont défilé à Barcelone en faveur de l'unité du pays. Et Kiabadou nous en dit plus.
Le Premier ministre Mariano Rajoy et le roi Philippe VI ont assisté à la parade militaire à Madrid pour commémorer l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. À Barcelone, des milliers de personnes ont défilé dans les rues, arborant des drapeaux espagnols en criant « Vive l'Espagne » ou encore « La Catalogne en Espagne ». D'autres manifestants ont scandé des messages hostiles aux indépendantistes comme « Puigdemont en prison » en référence au président régional qui a organisé le référendum du 1er octobre. Les quelques 7,5 millions de Catalans sont très divisés sur le projet de sécession. Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol, a donné jusqu'au 19 octobre au président régional Carl Puigdemont pour qu'il clarifie sa position et renonce clairement à sa déclaration d'indépendance.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que les États-Unis prenaient le risque de sacrifier leurs relations avec la Turquie, accusant l'ambassadeur américain d'être à l'origine des tensions actuelles entre les deux pays. Les relations entre la Turquie et les États-Unis, deux pays partenaires au sein de l'OTAN, sont tumultueuses depuis l'inculpation la semaine dernière pour espionnage d'un employé turc du consulat américain à Istanbul. Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé d'expulser des ambassadeurs européens, arguant que leur gouvernement comploterait pour faire exclure Manille des Nations Unies. Au cours d'un discours virulent, le président philippin a dit qu'il ne tolérerait pas que les Européens critiquent sa politique de lutte contre la drogue, qui aboutit à ce que la police tue au moins 3850 personnes depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Et le président américain Donald Trump a salué ce jeudi la libération de l'américaine Kathleen Coleman et de son mari canadien Joshua Boyle, ainsi que de leurs trois enfants nés au cours de 5 ans de captivité par le réseau Haqqani au Pakistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
En Côte d'Ivoire, les services des impôts ont mobilisé 1 579,3 milliards de francs CFA de janvier à septembre 2017. Selon le directeur général des impôts, Aboussi Ouattara, c'est une progression de 10,5% par rapport à la même période de l'année 2016. Pour le quatrième trimestre, M. Ouattara estime que la réalisation des objectifs fixés est largement possible au regard du potentiel économique et humain dont dispose la Côte d'Ivoire. En plus de cela, de nouvelles réformes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité des rapports avec les contribuables clients. Au Burkina Faso, le gouvernement prévoit l'implantation d'une unité industrielle pharmaceutique d'un coût de 19 milliards de francs CFA à Kologo, près de Ouagadougou. Selon APA News, cette unité aura une capacité de production de 4000 bouteilles de 500 ml de soluté par jour et permettra de fournir les marchés burkinabés et ouest-africains, selon le ministre de la Santé, Nicolas Meda. Ce projet date de 2012, mais les soubresauts politiques ont retardé sa concrétisation. Au Sénégal, les exportations de biens ont connu une baisse de 21,6 milliards de francs CFA durant le mois d'août 2017, selon la direction de la prévision et des études économiques. Le repli enregistré au niveau des exportations de produits alimentaires est essentiellement porté par les produits halieutiques, soit moins de 4,1 milliards, et les produits arachidiers, au moins 2,3 milliards. À l'inverse, les exportations de produits pétroliers, d'or brut et de zircon ont respectivement progressé de 8,7 milliards, 3,6 milliards et 0,5 milliards sur la même période.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Coupe du monde des moins de 17 ans, le Mali qualifié pour les huitièmes de finale.
Grâce à sa victoire sur la Turquie lors du match précédent, le Mali avait son destin en main à l'heure d'affronter la Nouvelle-Zélande. Et bien c'est une victoire, 3 buts à 1 et une qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Salam Djidou, Djemoussa Traoré et Lassana Ndiaye, buteurs pour les Aiglons du Mali. Le Ghana a laminé le pays organisateur, l'Inde 4 buts à 0. Une victoire qui lui garantit une place en huitième de finale. Cette Coupe du Monde qui avait été inaugurée par la secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, qui revient ce soir sur VOA Afrique sur l'engouement de la compétition.
Mais c'est vrai qu'avoir une compétition en Inde, le deuxième pays le plus peuplé au monde et qui est une nation surtout de cricket, c'est quelque chose que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Personnellement, j'ai été séduit par le niveau d'engouement vis-à-vis d'un sport qui devient de plus en plus populaire et les stades étaient suffisamment bien, remplis. Je pense que le premier jour, on avait fait plus de 40 000 spectateurs et nous savons donc pour Calcutta, qui est vraiment la ville du foot, on aura un stade plein à la finale.
La secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura.
Aboubakar prolonge l'aventure à Porto.
L'international camerounais Vincent Aboubakar a prolongé avec le FC Porto jusqu'en 2021. Le FC Porto qui a acquis les 60% restants des droits économiques de l'attaquant camerounais auprès du FC Lorient pour un montant de 7,2 millions d'euros, précise le club, ajoutant que le contrat est assorti d'une clause de départ de 50 millions d'euros. On rappelle que Vincent Aboubakar a été recruté en 2014 par Porto. Il avait été prêté en 2016 à Beşiktaş.
En tennis, les Masters de Shanghai.
Et Rafael Nadal et Roger Federer se sont montrés expéditifs pour accéder au quart de finale du Masters de Shanghai. Le numéro 2 mondial Federer avait un peu cravaché contre l'Argentin Diego Schwartzmann. Une victoire 7-6-6-4, Un peu plus tôt, il a fallu 3 minutes de plus à Nadal pour balayer l'Italien Fabio Fognini en deux petits sets, 6-3, 6-1.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. En RDC, l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit la tenue de la présidentielle avant fin décembre. Négocié et adopté à Kinshasa sous l'égide des évêques congolais, il interdit au président Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat et exclut de modifier la constitution. À quelques semaines de la fin de cette échéance, est-il possible d'organiser les élections ? Éric Manirakidze a posé cette question à l'analyste politique et consultant diplomatique Henri Désiré Nzouzi.
Les mauvais signaux se sont accumulés ces dernières semaines, puisque en principe le corps électoral devait être convoqué le 30 septembre. Ça n'a pas été fait. Entre-temps, nous attendions la publication du calendrier électoral qui aurait dû intervenir bien avant. Et malheureusement, ce à quoi nous avons assisté, c'est simplement des effets d'annonce et des ballons d'essai pour tester l'opinion. Et ça, je dois avouer que c'est assez inadmissible, puisque nous sommes désormais dans une logique de report de scrutin. Indépendamment du fait que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de calendrier, mais que l'on a plus ou moins une idée de ce qui se trame à l'heure actuelle par rapport à la date effective des élections.
Il y a de l'insécurité dans plusieurs coins du pays. Il y a aussi le problème d'enrôlement des électeurs.
Oui, le problème d'enrôlement qui n'est pas terminé, puisque souvenez-vous, l'an dernier, la CENI nous disait que les opérations seraient terminées pour le 31 juillet. Certes, il est vrai que les opérations ont été ralenties à cause du phénomène Kamuina-Sapou, mais également à cause de la recrudescence des hostilités. Mais globalement, il était possible de terminer ce processus d'ici, en fait, depuis le mois de septembre, en réalité. Au lieu de ça, nous avons malheureusement assisté à des sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec le processus actuel. D'une part, il y a eu ce fameux débat relatif au vote électronique qui n'avait aucun sens. Et d'autre part, on a organisé précipitamment des élections dans une demi-douzaine de provinces, ce qui a eu pour effet, bien évidemment, de retarder mécaniquement les échéances.
Qui a tort dans tout cela et à qui profite cette situation ?
La situation profite naturellement au pouvoir en place et il est évident que l'opposition se retrouve d'une certaine manière impuissante et désarmée. La plupart des appels qu'elle a lancés pour essayer d'accentuer la pression sur le régime n'ont malheureusement pas été suivis d'effet, puisque souvenez-vous, on nous avait annoncé une désobéissance civile à partir du 2 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre, toujours rien. Maintenant que l'on attend toujours la publication de ce fameux calendrier, même si l'on sait déjà que la meilleure défense, c'est l'attaque. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de jeu de dupes où on annonce des choses, on lance des ballons d'essai pour tester l'opinion publique et ensuite voir si l'on peut rétropédaler ou affiner ce qui est prévu. En tout état de cause, nous sommes aujourd'hui le 12 octobre, il est matériellement et techniquement impossible d'organiser des élections.
C'était Henri Désiré Nzouzi, il était joint à Bruxelles en Belgique.
Le Burkina Faso commémore dimanche le 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien président burkinabé demeure une icône. Pourquoi fascine-t-il autant ? Telle est la question posée ce soir dans À votre avis. Une partie de la jeunesse africaine en quête de révolution se réclame de son héritage. Que pensez-vous de ses idéaux ? Morgane Diriec, en votre compagnie, réagissez en direct ce soir à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur Facebook. Nous vous rappellerons. À ce soir.
Au Tchad, le Premier ministre Albert Paimi Padake invite le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur et l'Union nationale des étudiants tchadiens à rompre avec les vieilles habitudes et à entamer l'année académique 2017-2018 sans perturbation. Une invitation qui ne semble pas gagner la confiance des étudiants et enseignants. Le point avec notre correspondant André Kodmadjingar, Anjamena.
Un véritable lavage du cerveau des membres du Synex et de l'UNET, deux principaux acteurs de l'enseignement supérieur au Tchad, ce lundi 10 octobre à la primature. Vous pouvez revendiquer vos droits, mais tenez aussi compte de la situation de crise financière que traverse le pays. Vos arriérés de bourses d'études et primes de recherche seront échelonnés jusqu'en fin 2017, a déclaré le chef du gouvernement, Paimi Padaké Albert. Réaction de Gali Abdelaziz, secrétaire général de l'UNET, section de N'Djamena.
La base réclame que sans ces arriérés de bourses, il n'y aura pas la nouvelle année académique. Donc ils ont divisé les 5 mois par 3. 2 mois en octobre, 2 mois en novembre et 1 mois en décembre. Chose que nous avons pris note. Et là, il est question d'informer à nos bases respectives et en ce moment, nous donnerons une réponse ultérieure.
Pour Girayo Jérémy, président du Synex, cette promesse vise à endormir les anciens chercheurs.
Les promesses restent les promesses. Hein. Le Premier ministre est politique. Mais nous ne tenons pas compte de ces promesses-là. Nous voulons du concret. Donc si ces promesses-là arrivent à être des réalités effective, le Synex va lancer aussi une rentrée. Mais si les problèmes ne sont pas résolus, il n'y aura pas de rentrée.
Les autorités en charge de l'enseignement supérieur s'activent à lancer l'année académique 2017-2018 alors que l'année 2015-2016 n'est pas encore achevée dans les trois institutions universitaires de N'Djamena. Que dire de l'année académique 2016-2017? Gali Abdelaziz, secrétaire général de l'UNET section de N'Djamena.
Au ministère de l'enseignement supérieur, il y a une formule qui nous dit que l'année 16-17 est une année fondue. Dans l'année 15-16, nous avons avalé cela difficilement. Nous la considérons comme une année perdue.
Pour le recteur de l'université de N'Djamena, professeur Mohamed Barka, l'année 2016-2017 n'existe plus pour les 6 facultés de N'Djamena.
À l'exception de la faculté de médecine, l'année 2016-2017 est perdue pour les 6 autres facultés. Donc là, on va effectivement commencer avec l'année 2017-2018. Le temps perdu, on peut dire, bon, à qui la faute? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est les enseignants? Ça, c'est un point d'interrogation. Le constat est fait, l'année est perdue, donc on va aller sur une nouvelle base.
La même cause risque de produire les mêmes effets, car le rectorat de l'université de N'Djamena a besoin de plus de 1,8 milliard de francs CFA pour éponger les arriérés de salaire des enseignants contractuels, personnel administratif et même pour son fonctionnement pour l'année civile en cours. Alors, avec cette tension de trésorerie, comment l'État tchadien pourrait-il régler cette situation pour que l'année académique 2017-2018 ne soit pas perturbée? André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur la crise indépendantiste qui ébranle l'Espagne. La Catalogne veut se séparer de ce pays. Un commissaire européen est allé jusqu'à dire que ce conflit peut dégénérer en guerre civile. Que pensez-vous de cette crise catalane? Quelles peuvent en être les conséquences politiques et économiques? De telles velléités indépendantistes peuvent-elles avoir un effet de contagion en Europe et même ailleurs dans le monde? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h01.
Créée en 1982, l'école des arts du cirque de Libreville, communément appelée Cirque de l'Équateur, est une fierté nationale au Gabon. La troupe représente le pays à l'extérieur et accueille chaque année de nombreux jeunes, parfois désœuvrés. Mais faute de moyens financiers, le cirque de l'Équateur pourrait vivre ses derniers instants. Voici un reportage de Joël Tatou, présenté par Gaby Dorsil.
Situé dans un quartier huppé du premier arrondissement de Libreville, le camp du cirque de l'Équateur bénéficie d'un cadre particulier et semble perdu en plein cœur de la forêt équatoriale. Ici se transmettent de génération en génération des connaissances pluridisciplinaires issues de la culture traditionnelle gabonaise. Séraphin Abessolo Edou est le directeur technique du Cirque de l'Équateur.
Nous avons plusieurs disciplines, c'est-à-dire nous avons l'acrobatie, nous avons la gymnastique, nous avons l'équilibre sur fil, nous avons des jongleurs, nous avons des danseurs, nous avons des échassiers, nous avons des cracheurs de feu, nous avons des batteurs. En tout cas, nous sommes une troupe complète.
Pétri de talent et d'un savoir-faire unique, en témoignent les nombreuses distinctions reçues par la troupe à l'international, le Cirque de l'Équateur file malheureusement vers son déclin. Privé de sponsors et victime du manque d'ambition des politiques culturelles au Gabon, le cirque vit, malgré toute la bonne volonté de ses acteurs, une situation économique précaire, explique M. Abessolo Edou.
Depuis un moment de temps, c'est très dur. Avant, on avait de grandes salles de spectacle, Mais depuis qu'il n'y a plus les grandes salles de spectacle au Gabon, on avait par exemple Intercontinental, le gymnase Omnisport, on avait la Cité de la Démocratie. Ça, c'était des salles qui nous faisaient souvent produire chaque semaine. Mais depuis qu'on a passé ça là, on nous sollicite peut-être dans les cérémonies, les anniversaires.
Outre sa dimension artistique, le Cirque de l'Équateur joue aussi un rôle important d'insertion sociale. En 35 ans, il a accueilli de très nombreux jeunes désœuvrés et les a formés au métier du spectacle. Les précisions de l'acrobate Séraphin Mbaïdzang.
Au jeu, on essaie d'abord d'amener une certaine éducation, une rigueur, une discipline. Et puis, en plus de ça, on essaie d'apporter et d'éveiller en tout un chacun d'abord l'esprit physique du corps pour pouvoir être en bonne santé et puis pouvoir développer aussi les dons que le bon Dieu nous donne.
Instrument culturel à préserver jalousement, le Cirque de l'Équateur a encore de quoi faire rêver la jeunesse gabonaise. Mais s'il ne veut pas voir tomber le rideau, il lui faudra trouver rapidement un nouveau souffle.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Californie, les pompiers travaillent sans relâche pour lutter contre les incendies qui ravagent depuis dimanche les plus prestigieuses régions viticoles de l'Ouest américain, la Napa et la Sonoma Valley. On dénombre 23 morts et 14 000 hectares ont déjà été réduits en cendres. Claire Morin-Gibourg a joint le copropriétaire du domaine soliste dans la Sonoma, Claude Keberle, pour savoir si une partie de son domaine avait pu être sauvée.
Eh bien, c'est très difficile à dire parce qu'on ne peut pas accéder. Donc, on ne saura rien. Et le problème que l'on a, c'est que les vents sont redevenus très, très, très forts dans la nuit d'hier. Et les feux vont certainement se rencontrer et donc ça peut créer évidemment des problèmes qui vont devenir encore plus intenses. On est plus concerné pour la population que nos vignes. Le vin, bon, c'est bien, mais évidemment que c'est tragique de perdre des vignobles ou de perdre sa winery. C'est des gens, surtout des gens pas comme nous qui... Il y a des gens qui sont là-bas, Sonoma et Napa, depuis des générations, comme Stag's Leap, par exemple, qui a brûlé. Donc ce sont des désastres émotionnels, personnels, mais il faut bien dire que moi, mes pensées ne sont pas sur mes vignes, ne sont pas sur la winery, mais sont pour les gens de Sonoma et de Napa. Il n'y a plus d'hôpitaux, les écoles pour les enfants, il y a plus de centaines de personnes qu'on n'a pas trouvées, qui sont vraiment disparues. Et donc, je pense que le taux de mortalité va malheureusement monter. Je voudrais simplement ne pas essayer de parler du vin, parce que c'est tellement minime aujourd'hui, c'est tellement trivial que ça serait presque une insulte de parler du vin.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous? Est-ce que ce sont les vents? Est-ce que ce sont l'emplacement?
Les vents sont imprédictibles. Ce sont des vents El Diablo, si vous de regarder un peu leur histoire. C'est ce qui s'est passé quand ça a tout détruit les collines de Oakland il y a quelques années. Et puisqu'on a eu 6 ans de sécheresse, les arbres étaient très très secs. Et donc, quand vous avez des vents et des incendies comme ça qui sont à 50-60 miles par heure, eh bien, ça, c'est des brasiers. C'est des brasiers. Et bon, il y a bien sûr le feu en premier. Le feu en premier, il est avec les vents qui sont encore pas maîtrisés, très loin d'être maîtrisés. Et en deuxième partie, eh bien, la fumée qui est nocive pour la santé non seulement, mais la fumée qui est nocive pour les vins et les cendres. Et puis ça arrive à un très très mauvais moment, en plein moment des vendanges et des post-vendanges. Donc vous avez des vins qui sont encore en fermentation, donc ils sont fragiles. Certaines wineries n'ont eu plus d'électricité, donc vous ne pouvez pas contrôler les températures, etc. Donc il y a des problèmes énormes si on parle simplement des vins, mais bon... Il n'y a plus d'hôpitaux. Alors, à part les vins, c'est une chose, mais les hôpitaux, les écoles, ça va être très, très difficile à rebâtir.
Voilà, c'était Claude Keberle. Il est viticulteur dans la vallée de Sonoma, en Californie. C'est la fin de cette édition. À très bientôt. Au revoir.